Actu SF, les podcasts.
Bonjour donc et bienvenue à cette table ronde sur les sorciers et magiciens, un thème dont on se doute qu'il est extrêmement riche dans nos domaines de la SFFF et en particulier donc de la fantasy et du fantastique et du steampunk qu'on va explorer aujourd'hui donc avec notre panel d'auteurs et d'autrices Marie Caillet, Alex Evans. Ruberto Sanker et Sébastien Chartrand. Donc je vais commencer par vous présenter rapidement nos auteurs et puis ensuite on parlera de leurs livres respectifs. Alors Marie Caillet, donc qui est là-bas, elle a remporté à 18 ans un concours d'écriture qui lui a valu la publication d'une première trilogie, L'héritage des Darcères, chez Michel Lafond à partir de 2010, et elle a publié donc en 2017, n'hésitez pas à le montrer Marie parce qu'il est un peu loin pour moi, le premier tome d'un nouveau cycle chez Hachette Roman, et donc ça s'appelle Les Rumeurs d'Issard. Alex Evans, qui est à côté d'elle, est une passionnée d'imaginaire et l'autrice de plusieurs séries, en fait, dont certaines en auto-édition chez Amazon, les épopées de l'histoire. J'arrive pas à me relire, en fait. Les épopées urbaines, excusez-moi, donc c'est de la fantaisie urbaine, Machines et magie, donc cette belle créativité du côté de la fantaisie urbaine et du steampunk se révèle donc dans la série qu'elle publie dans la collection Bad Wolf chez Actu SF, avec le premier tome qu'elle vous montre ici qui s'appelle Sorcières associées, et puis un deuxième tome dans le même univers et avec les mêmes deux personnages de Tanit et de Padmé qui vient de sortir, qui s'appelle L'échiquier de Jade. Ruberto Sanker a publié chez Scrineo L'aura noire et puis sa suite déjà, La marque rouge, dans l'univers qu'elle a développé qui s'appelle La Terre Arcane, et qui a vécu donc une lointaine apocalypse qui ressemble à une catastrophe nucléaire. Donc c'est à la fois c'est de la fantasy, puis ça pourrait bien être quelque chose comme notre futur. Et enfin, Sébastien Chartrand, alors il fait partie de la talentueuse délégation canadienne qui est cette année l'invité, la nation invitée du festival, et en l'occurrence, il représente le Québec, puisqu'il est en effet l'auteur d'une trilogie qu'il appelle lui-même de fantasy québécoise. C'est vraiment le projet qu'il s'est donné, il nous en dira davantage. Donc, la trilogie en question est publiée aux éditions À lire à partir de 2013. Et le premier volume que vous voyez là s'appelle L'ensorceleuse de Pointe-Lévis, qui lui a valu un prix très prestigieux, qui est le prix Aurora Boréale. Et récemment, il a publié L'année du sorcier, ou Comment j'ai survécu à ma sixième année, qui est un autre point de vue sur la magie et pour plus jeunes public. Voilà, donc ça s'applique bien à notre public dans la salle. Alors, est-ce que vous pouvez commencer un petit peu à nous en dire plus sur vos romans respectifs et notamment sur comment fonctionne la magie dans vos mondes respectifs, les magiciens et les sorciers.
Alors, Marie. Donc dans Les Rumeurs d'Issard, la magie est basée sur en fait les signes astrologiques. En fait, le principe, c'est que chaque personne qui naît dans ce monde naît sous un signe et que ce signe lui donne des pouvoirs spécifiques. Donc, par exemple, il y a les signes d'eau, les signes de terre et la magie est liée à la maîtrise de ces éléments-là. Et dans cet univers, il y a certaines personnes qui naissent avec un pouvoir beaucoup plus concentré que la moyenne et en fait, qui sont récupérées par l'élite magique de ce monde-là, qui s'appelle le palais. Et en fait, chaque sorcier, même si c'est plutôt... il n'y a pas vraiment de terminologie pour ce statut-là, est dépêché auprès d'un roi de chaque royaume pour l'aider à gouverner et aussi pour permettre au palais d'avoir une surveillance globale là-dessus. Donc voilà, je pense que c'est la présentation.
Oui, donc en fait, tout le monde a des pouvoirs dans ce monde, mais pas tout le monde au même degré.
Voilà, c'est ça. Il y a des nuances. Et il y a aussi la façon pour chaque personne d'utiliser son pouvoir. C'est un talisman. En fait, c'est un pendentif qui est remis à chacun à l'âge de 15 ans. Donc, si la personne perd son talisman, elle perd aussi son accès à la magie.
C'est important de le préciser. Voilà. Alex Evans, c'est également dans la ville de Jarta, la magie est partout.
Alors, la magie est partout, effectivement. Bon, comme c'est du steampunk, ça se passe dans un univers où il y a une technologie voisine de ce qu'on aurait au 19e siècle, avec en plus une magie qui est une forme d'énergie, hein, c'est comme ça que je l'ai définie, qui a un côté cyclique, c'est-à-dire qu'elle disparaît dans ce monde et qu'elle réapparaît sur un cycle d'à peu près 1500 ans. Et donc, quand elle disparaît pour plusieurs siècles, ce qui veut dire que les gens l'oublient complètement, et ce qui en reste, c'est des légendes. Les gens pensent que la magie n'existe pas, c'était juste des superstitions, des légendes, des contes, et quand la magie revient, elle revient de façon assez brutale, c'est le choc complet parce qu'on découvre que si, la magie existe. Et dans ce monde, il y a des gens qui sont capables de la percevoir, c'est une petite minorité. Et assez rapidement, puisqu'on est dans un univers qui est proche du 19e siècle, tout porte à profit, tout porte à développement industriel. Et donc ces gens-là vont, ils vont devenir sorciers, mais sorciers de métier. C'est-à-dire qu'ils vont ouvrir un petit cabinet de sorcellerie pour gagner de l'argent. Donc, si vous avez une maison hantée ou quelqu'un vous a jeté un sort, ou vous voulez jeter un sort à quelqu'un, au contraire, vous allez voir un sorcier, vous le payez, et puis il va régler votre problème. Alors, en sachant que cette magie a une grosse limitation, c'est le prix à payer.
La magie a toujours un prix.
Oui, tout à fait. Donc, vous ne pouvez pas directement affecter une personne avec votre sort parce que vous souffrirez la même chose que cette personne. Si vous tuez la personne, vous allez mourir. Si vous lui brûlez une main, vous allez vous brûler la main au cours de votre vie. Même chose pour un animal. Parce que pour la magie, il n'y a pas de différence du moment que c'est un être vivant. Le prix se paye. Et même pour lancer un sort, vous devez faire l'équivalent d'un gros effort physique. Non seulement la magie a un prix, elle a un coût, et bien sûr, elle suit la loi de l'offre et de la demande. En plus de ça, vous avez toute une série de créatures magiques qui se promènent dans cet univers. En sachant que les hommes qui habitent cet univers aimeraient bien très souvent les capturer ou les apprivoiser pour s'en servir comme animal domestique. Donc c'est vraiment la magie du 19e siècle, si je puis dire, si elle existait. Voilà ce que je peux dire.
Merci Alex. Roberto, donc on se situe dans l'aura noire aux côtés de Louise, hein, donc une Sylve.
Dans l'aura noire, pardon, vous m'entendez ?
Oui.
Dans l'aura noire, on se situe 3000 ans après une apocalypse qui a détruit la planète. Et dans ce monde-là, on ne s'est pas reconstruit sur le développement des technologies, comme nous aujourd'hui, téléphone, ordinateur, mais... on est dans une nature qui a muté, où les arbres ont acquis une forme de conscience et les humains des pouvoirs particuliers. Ça, c'est pour le contexte. Et dans ce contexte-là, il y a ma jeune héroïne, Louise, qui est une apprentie sorcière et qui s'apprête à passer le sabbat. Le sabbat qui va lui permettre de se connecter à ces énergies naturelles de la terre pour soigner et guérir les gens. Le pouvoir de soigner et guérir les gens par les énergies naturelles n'est donné qu'à une élite. dont elle fait partie, mais elle mettra ce pouvoir au service de tout le monde. Et elle va passer ce sabbat, c'est pas dit qu'elle va le réussir d'ailleurs, avec sa promotion de 13 apprentis sorcières. Ça fait des années qu'elle lutte, qu'elle travaille pour obtenir le maximum d'informations pour passer ce sabbat. Voilà. Donc une magie naturelle, de connexion aux énergies naturelles.
Et en même temps, il y a des zones du monde où on ne partage pas les mêmes croyances.
Oui, parce que ça se situe en sylve. Donc, on est dans un royaume forestier, essentiellement forestier. Et au fil du temps, il y a une partie de la population qui est sortie des forêts pour s'établir dans le domaine alluvial, auprès du grand fleuve, pour cultiver et sortir le fruit de la terre. Et ceux-là, au contact du commerce et de leur développement, ils ont perdu le sens de la forêt qui caractérise les forestiers. Donc on est dans une sylve qui est partagée, non seulement au niveau économique, au niveau croyance, mais aussi au niveau du pouvoir, parce que cet autre, c'est le même peuple, hein, mais ce sont des doctes, et ces doctes-là, eux, leur croyance, elle se base sur l'alchimie. Et évidemment, il y a un combat de préséance pour affirmer sa forme de magie. Mais on suit quand même l'histoire de Louise tout au long de ce roman, et on est plutôt centré donc sur les connexions aux énergies naturelles. Voilà. Merci.
Sébastien Chartrand, alors là, la magie n'est pas censée exister dans le Québec du 19e siècle que vous nous décrivez, et que vous nous décrivez de manière volontairement documentée et vraisemblable. Et pourtant, derrière la religion qui continue à dominer les populations rurales, on a bien plusieurs sortes de magie qui existent.
Oui, tout à fait. Pour que ce soit crédible, parce qu'on n'est pas dans un monde imaginaire, j'ai décidé d'employer vraiment le monde dans lequel on vit. J'ai créé une magie qui était basée sur un modèle scientifique hérité du modèle moléculaire de Dalton et de d'autres scientifiques du 19e siècle. Donc, la magie fonctionne vraiment... La formule magique crée une énergie kinétique vibratoire qui va fournir le support énergétique pour produire un sortilège qui va altérer un peu, ben pas altérer, mais influencer les lois de la physique pour obtenir un effet. On hérite aussi, le clergé possède certains écrits qui ont été saisis durant l'Inquisition, puis par la suite sur lesquels le clergé a fait main basse, notamment je pense aux écrits d'alchimie d'Isaac Newton ou autres textes qui sont avérés historiquement. Puis c'est en utilisant ces textes-là que le clergé, qui était très très puissant au Québec au 19e siècle, qui avait une assise sur la population jusqu'au point d'exiger certaines familles d'avoir davantage d'enfants, par exemple, va se servir de ce pouvoir-là, de ces sciences-là qui ont été sur lesquelles on fait main basse pour asseoir son autorité.
Alors présentez-nous un peu justement les différents types de magie, parce que donc on a cette magie... La théurgie, mais ce n'est pas la seule forme de magie qu'on va découvrir au fil même du périple dans le premier volume.
Oui, en réalité, il y a autant de sortes de magie qu'il peut y avoir de société. Ce sont toujours les mêmes lois physiques qui sont influencées, mais de façon très différente. Au niveau de la théurgie, par exemple,
c'est une des formes de magie de ce monde.
On s'efforce de respecter les lois naturelles ou de les influencer dans le sens où iraient normalement les choses. Si on parle de Goétie, qui est associé dans l'esprit des gens à la magie noire, quoique c'est plutôt une forme de presque de parti politique ou une forme d'idéologie, devrais-je dire. Dans ce cas-là, on va à l'encontre des lois naturelles. Il y a aussi une magie qui est plus traditionnelle, qu'on trouve chez les Premières Nations, chez nous, chez les peuples autochtones, que je pense aux Wendat ou aux Abénaki, que vous connaissez sous terme d'Amérindiens, je crois.
Oui, mais peuples autochtones, oui. Ça marche aussi.
Donc, chez les Premières Nations, qui sont utilisées vraiment de façon plus traditionnaliste, mais on a encore le même processus scientifique qui, cette fois-là, a été découvert de façon empirique. plutôt qu'une formule magique syllabique, ce sont des mélopées, des chants anciens qui vont produire exactement au cours de méditation et de danse la même énergie qui a été obtenue cette fois-là de façon plus ancestrale.
Ok. Alors maintenant qu'on en sait un peu plus sur les systèmes de magie qui sont à l'œuvre dans les différents mondes, on voit déjà que c'est d'une incroyable richesse et inventivité. Donc la question de la table ronde, c'est la question du manichéisme, hein, de l'usage de la magie entre sorciers et magiciens. Est-ce que cette distinction-là existe dans vos ouvrages? Est-ce qu'il y a une bonne magie, une mauvaise magie? Marie Caillet, ce n'est pas vraiment le cas dans les rumeurs d'Issard, où la magie est plutôt neutre. Y a différents types de pouvoirs, mais voilà, ils ne sont pas bons ou mauvais.
C'est vraiment une magie universelle, dans la mesure où vraiment chaque humain qui naît là. Mais ensuite, la magie dépend de l'utilisation qu'on en fait plutôt que de la nature de la magie en elle-même. Et du coup, c'était une question que je m'étais posée au moment où j'avais commencé à réfléchir à la structure de l'univers. C'était que je voulais explorer les nuances du bien et du mal. Et du coup, je me place... En fait, j'ai deux camps. Donc, il y a le palais, qui représente l'élite magique de ce monde-là, qui a vraiment une mainmise sur les pouvoirs politiques et l'organisation du monde. Par exemple, c'est le palais qui distribue les talismans aux jeunes natifs. Et du coup, il y a cette partie-là, et il y a un autre camp qui s'appelle la maison, et qui en fait conteste la façon dont la magie est utilisée, et veut plutôt avoir veut plutôt remettre les choses à plat. Donc voilà.
Et vos héros se situent de quel côté?
Alors en fait, on suit deux personnages. Donc il y a le héros principal qui s'appelle Ejan, qui en fait a un très grand pouvoir, mais quand il l'a su, il s'est caché pour pas justement être attrapé par le palais, et qui en fait va rejoindre un peu malgré lui la maison, et donc va avoir le conflit du côté des, finalement, des méchants quelque part. Et de l'autre côté, il y a Shanice qui, elle, naît au début, enfin voit son pouvoir naître au début de l'histoire, et elle voilà, attrape le palais, et au début elle n'a pas forcément une vision très positive de ce camp-là, et ça pose la question de voilà, comment elle va choisir de se positionner vis-à-vis de l'ordre en place.
Au contraire, Roberto Sancar, dans l'Aura Noire, le monde est a priori bien polarisé, puisque on a l'intervention explicite et directe d'un démon.
Oui, tout à fait.
Qui, alors, lui, est un vrai méchant, un représentant du mal. Hein.
Oui, bien que dans ma conception de la magie à la base, je pense qu'il n'y a pas de bonne magie ou de mauvaise magie. Je pense qu'il y a une magie et que tout dépend de l'utilisation qu'on en fait. Alors, c'est comme l'électricité. L'électricité, ça éclaire, ça donne de la lumière, mais ça peut griller quelqu'un. Donc, c'est fondamentalement ce que je pense. Je ne l'ai pas spécialement fait passer parce que j'avais un gros méchant, un démon, qui, dès le début du roman, ça c'est un parti pris, on ne le voit pas très bien, mais qui lance une malédiction sur la tête de mon héroïne, Louise. Ça, c'est le point d'entrée dans le roman. Et alors ?
C'est la fameuse aura noire.
Oui, exactement. Et elle ne sait pas comment, elle ne sait pas pourquoi. Et même dans son monde où on est versé en magie, personne ne comprend qu'elle est atteinte d'une malédiction. Donc ça fait courir quand même le suspense sur beaucoup de pages, et jusqu'à ce qu'on puisse s'en rendre compte. Mais le démon, ceci dit, il est clairement caractérisé dans les forces du mal. Voilà. Donc c'est une magie qui est tranchée entre les forces du mal, mais je dirais pas et les forces du bien, parce que la magie qui est utilisée par ces sorcières-là, c'est une magie qui est destinée à sauver le monde et qui est issue de l'énergie qu'on porte tous en nous et qui traverse tout ce qui vit. Voilà.
Oui, au départ, on a l'impression qu'on a un très très grand méchant, le démon, face à à d'adorables petites sylves qui sont dans une espèce de pensionnat de jeunes filles avec à longues oreilles. Mais l'héroïne, est marquée.
Oui, elle est
donc
marquée.
Donc l'héroïne porte
la marque,
le mal.
Le mal, elle porte cette...
et introduit le mal dans son univers.
Oui, l'aura noire, en fait, le démon ne peut pas tuer cette jeune fille par lui-même, parce qu'on le saura plus tard pourquoi. Donc, il va faire en sorte qu'on la tue. Et pour ce faire, il lui balance cette aura noire qui tue tous les gens qu'elle aime autour. Il se passe des choses et ils meurent les uns après les autres. Et bon, après, je ne vous en dis pas plus. Il faut découvrir ce qui se passe, mais ça maintient le suspense. Il y a sa maîtresse sorcière, par exemple, qui est la première affectée. Et elle se retrouve toute seule. Et au départ, on ne comprend pas pourquoi. C'est la maudite, quoi. On a peur, on la repousse. Voilà.
Sébastien aussi, il y a cette distinction assez nette au départ dans le monde de cette fantaisie québécoise entre théurgie, égoïcie. Mais effectivement, les choses vont progressivement se compliquer notamment le personnage du héros, Faustin, avec le mystère qui plane sur son identité, vient compliquer les choses.
Oui, tout à fait. De toute façon, la définition de théurgie, de goétie sont des définitions héritées du passé, très très définies justement par l'Église qui cherchait à définir son type de magie comme étant la bonne magie. On se rend compte que la magie est rien d'autre qu'une science élaborée par d'anciens chercheurs scientifiques, je pense à Roger Bacon, à Albert Legrand, qui ont établi les premiers postulats de cette science-là. Donc, au fur et à mesure que l'intrigue avance, on se rend compte qu'il n'y a aucune forme de manichéisme vraiment, que c'est un outil qui est utilisé, j'aimais beaucoup l'analogie avec l'électricité, qui est aussi bon ou mauvais que la personne qui s'en sert. Pour ce qui est de Faustin, ce qui est un personnage que j'ai eu beaucoup de plaisir à créer parce que c'est probablement le pire utilisateur de magie qui puisse exister. Il est pas bon, il a aucun talent, il aime pas lire. C'est pas un intellectuel du tout, c'est un paysan jusqu'à la moelle des os. C'est quelqu'un qui s'emmerde littéralement aussitôt que le discours tourne dans l'intellectuel. Puis qu'à chaque fois qu'il va s'essayer à faire un peu de magie, ben ça va ouvertement l'emmerder. Il est un peu contraint de le faire par la force des choses. C'est un bedeau, c'est-à-dire qu'il travaille pour un curé. Curé qui est son oncle adoptif, qui s'est occupé de lui en tant qu'orphelin. Mais il en reste pas moins que... Plus il avance, plus il se rend compte que la façon dont il a été éduqué dans la religion catholique, la notion de polarité, de manichéisme est totalement fausse et artificielle.
Chez vous, Alex Evans, non plus, les démons ne sont pas ce qu'on croit. Hein. Au départ, on se lance dans des enquêtes contre des vampires, contre des zombies. Hein, et puis, voilà, assez rapidement, les ennemis, voilà, ne vont plus être exactement les créatures qu'on nous avait indiquées comme maléfiques.
Ben non. chez moi, en général, derrière les démons et les zombies et les vampires, on trouve des humains, tout bêtement. Dans la mesure où la notion de bien et de mal, c'est quand même quelque chose d'humain. Hein. C'est pas quelque chose qui existe dans la nature. En plus, je me suis basée vraiment sur un folklore qui n'était, mais alors pas du tout chrétien, où la magie ne fonctionne pas du tout en dépendance avec des notions de bien ou de mal. C'est vraiment effectivement la magie. Après, ça dépend de ce qu'on en fait. Effectivement, l'analogie avec l'électricité est très bonne. Et évidemment, chez moi, dès qu'on découvre qu'il y a une magie et qu'on peut l'utiliser, on va tout de suite essayer de l'utiliser à des fins pas très avouables. Donc on va essayer de faire des zombies pour faire la guerre, donc on va essayer de faire des unités de zombies combattantes, malheureusement ça marche pas. On va faire des démons pour faire le sale travail, assassiner des opposants politiques, des choses comme ça, donc ça va bien marcher. On va également essayer d'envoûter des vampires pour faire le même sale boulot. Ce qui va donner, dans une certaine mesure, dans cette société qui redécouvre la magie, une mauvaise presse à la magie. Mais à chaque fois, on se rend compte que c'est un problème purement humain.
Oui, voilà. Et à l'arrière-plan, il va y avoir dénonciation effectivement d'une exploitation capitaliste, par exemple, avec l'usine à zombies, ou du traitement des femmes et de leur puissance dans le destin des héroïnes.
Alors, j'ai pas du tout traité le féminisme, en fait, mais les zombies, par contre, c'était quelque chose d'assez intéressant à traiter parce que, historiquement, dans le folklore antillais, les zombies, c'était pas du tout des gens qui étaient atteints d'un virus. C'était des esclaves qui étaient forcés par un sorcier à trimer pour l'éternité au lieu de partir au paradis, ce qui était vraiment la pire chose qui pouvait vous arriver quand vous étiez un esclave. Même dans la mort, on ne vous laissait pas tranquille. Moi, je me base très souvent sur le folklore parce que c'est très révélateur, je dirais, de travers humain, effectivement. C'est beaucoup plus intéressant d'avoir un zombie transformé en esclave éternel, si je puis dire, que juste d'avoir une créature qui court partout et mord tout le monde. Évidemment, comme la magie, c'est une nouvelle technologie, comme maintenant Internet, il va y avoir des abus. Au cours de mes romans, il va y avoir des tentatives de régulation. Donc, effectivement, on va essayer de demander aux sorciers de s'enregistrer, de se faire inspecter, de se faire inspecter leur matériel, de promettre de ne pas utiliser certains sortilèges. Les sorciers vont également essayer de s'organiser entre eux. Mais bon, ça va marcher plus ou moins, comme dans toute société humaine. Regardez ce qui se passe avec Internet. On a dit que Internet, ce serait pour être bien, mais ça n'a pas l'air de tout à fait marcher.
Vous revisitez tous et toutes, à des degrés divers et de manière très différente, un imaginaire ancré de la sorcière, qui a déjà, bien entendu, beaucoup évolué, au cours des siècles et puis des décennies précédentes, avec le rôle qu'a pu jouer Harry Potter notamment. Mais vous, par exemple, Sébastien, vous revenez en arrière en revisitant des épisodes historiques de la chasse aux sorcières, et donc notamment le titre du roman est emprunté à un épisode historique. Si j'ai bien compris, puisque nous découvrons cette histoire québécoise.
Oui, effectivement. En vrai, l'ensorceleuse de Pointe-Lévis est l'un des surnoms qu'on donnait à Marie-Josette Corriveau, qui est une criminelle, puis probablement l'une des premières féministes qu'on a eues au Québec, qui, plutôt que de subir la violence que lui faisait son époux, comme l'exigeait le clergé, a décidé carrément de le tuer. Donc, pour marquer l'idéologie, l'envahisseur anglais, qui venait tout juste de ravir la Nouvelle-France, a décidé de l'enfermer dans une cage de fer, puis de la suspendre avec des chaînes pour envoyer un message très clair aux francophones, mais surtout aux femmes francophones, que l'administration britannique ne tolérerait pas ce genre de manifestation. Au fur et à mesure, les gens marqués par cet épisode-là, parce qu'on n'avait pas en Nouvelle-France une tradition de châtiment corporel de ce type-là, s'est mis à associer cette criminelle par dépit, disons, là, par obligation, à une sorcière. Et lentement, le folklore en a vraiment fait une sorcière, une ensorceleuse, une magicienne, jusqu'à ce que je la récupère dans son sens folklorique pour en faire vraiment une espèce d'invocatrice, mais aussi une femme de science qui étudiait en se cachant, en se dissimulant, pour reprendre autant la magie scientifique que le côté féministe de Marie-Josette Corriveau.
Oui, effectivement, c'est un des beaux archétypes de la sorcière, hein, qui est vraiment revisité aujourd'hui de ces féministes, de ces femmes d'un autre savoir. Et dans le contexte québécois tel qu'on le découvre ici, effectivement, on a une forte opposition, si j'ai bien compris à l'emprise du catholicisme sur les populations.
Tout à fait. En général, quand vous, cousins français, voulez nous caricaturer, vous lâchez nos crises de tabarnak de petite colisse de soir.
Vous connaissez ces jurons québécois, voilà, c'est faux.
C'est le caricaturel.
Oui, tout à fait.
Bon. Le fait d'utiliser les mots d'église pour jurer a été l'une de nos premières oppositions face à l'emprise du catholicisme. Tabarnak. Tabernacle est l'objet, mais tranquillement, autant avec l'accent qu'avec le... Un juron, faut que ce soit satisfaisant. Je m'excuse, mais qui ici va soigner un coup de marteau sur le pouce avec un saperlipopette? C'est pas satisfaisant. Tabernacle, c'est descriptif. Tabarnak, il y a quelque chose là, tu sais.
Plus explosif.
Oui, oui, oui. Puis il y a une gradation. Je m'excuse, mais notre langage a quelque chose de très, très expressif. On peut dire qu'une personne a pleuré beaucoup. Mais calisse qu'elle a braillé une shot, c'est pas la même chose. Puis... si vous me permettez...
Merci, mais tout à fait, pour cette leçon de québécois.
Si vous me permettez la parenthèse. Mais c'était aussi l'une des premières oppositions face au clergé. L'un des commandements du catholicisme, c'est de ne pas prononcer le nom de Dieu à tort et à travers. Ce qu'on s'est mis à faire de façon aussi colorée que je vous l'ai montré. Puis on s'est mis à le faire de toutes sortes de façons. Le sacre... Le juron sacralisé a commencé principalement au 19e siècle comme première façon de s'opposer. Tranquillement, on s'est mis à avoir aussi d'autres manières de faire pour s'opposer au clergé. Notamment, les femmes se sont mises à refuser d'avoir 22, 24, 26 enfants, qui était la famille traditionnelle au Québec à l'époque. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Oui, tout à fait. De toute façon, on avait droit à un lopin de terre après le 13e enfant. Ça avait, pourquoi ça aurait été à 12?
Ils ont de l'espace, tu vois, peuplé.
Ben justement. Donc 26 devenait intéressant, ça faisait deux lopins de terre. Quand venait le temps de léguer la terre, par contre, à 8, 10, 12, 18 fils, c'était plus compliqué. Mais donc, avant que je m'égare, il était question de se révolter contre le catholicisme. Et c'est aussi ce que j'ai essayé de récupérer autant en essayant de démontrer que la magie, que la sorcellerie était vraiment une science qui s'émancipait de toute forme de manichéisme, de toute forme de religion, et qui était autant pratiquée par les hommes que par les femmes. D'ailleurs, je crois que mon personnage le plus fort, le plus puissant, le plus intéressant, est une femme qui ne répond absolument pas aux stéréotypes qu'on voulait imposer au Québec au 19e siècle. Le personnage de Shaori, qui est une femme autochtone, qui est de la nation Mi'kmaq, qui s'oppose à toute forme de domination masculine et qui va faire évoluer le personnage principal, Faustin, qui est un paysan jusqu'à la racine des cheveux, dans sa mentalité, dans sa façon de voir les choses, mais sans moderniser le discours. Reste que, comme on est au 19e siècle, mon personnage a une définition du sexisme, se doit malheureusement, très malheureusement, d'être raciste, se doit d'être ce qu'on considérait aujourd'hui étroit d'esprit.
De
oui, tout à fait. Ça correspond à son époque. Mais le personnage va l'amener à évoluer ses mentalités d'une certaine façon.
Roberto, vous également, ces sorcières qui ont été donc diabolisées, notamment en raison de l'emprise catholique, vous en reprenez des termes, notamment le terme de sabbat,
oui,
qui est très présent, oui, pour leur donner un sens complètement différent. Et donc, ces magiciennes naturelles et bénéfiques, chez vous, s'appellent des sorcières et passent par une épreuve nocturne qui est le sabbat. Donc, c'était volontaire, cette reprise d'un vocabulaire historiquement marqué.
Oui, je pense que on est construit de son passé aussi. Et j'imagine qu'une société qui se reconstruirait dans 3000 ans garderait des substances, des choses comme ça du passé, des mots, sabbat. Ça ne correspond pas évidemment au sabbat traditionnel comme nous on peut le concevoir, où les sorcières dans notre Moyen-Âge s'adonnaient au rituel d'accouplement avec le démon. Ça n'a aucun rapport. En fait, comme dans cette nouvelle société qui est axée sur une connexion naturelle, je l'ai dévié, il n'y a pas d'autre mot, parce que, mais en revanche, un sabbat, dans ce nouveau monde, est carrément dédié aux autres. C'est à peu près l'opposition, voilà.
Et elles sont cependant diabolisées, hein, dans l'autre région de Sylve dont on parlait, les doctes. Donc
oui,
on peut faire un certain rapprochement avec cette un type de croyance beaucoup plus fermé, donc de ces doctes qui, eux, considèrent ces femmes comme des sorcières.
Quand elles passent dans leur territoire, elles ont intérêt à avoir une autorisation très spéciale et bien écrite, parce que sinon, elle risque de se faire pendre à un arbre de bordure et brûler. Voilà. Ils appliquent leurs propres lois. Et ça rappelle assez ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde contemporain, où on n'accepte pas toujours les croyances des autres et ça dérive. Voilà.
Marie, il n'y a pas vraiment de sorcellerie à proprement parler dans les rumeurs d'Issard. En revanche, on peut dire que vous revisitez la figure du familier à travers l'animal hein, qui accompagne un certain nombre de vos personnages, si vous pouvez nous en dire plus.
Oui, alors effectivement, la figure de la sorcière n'est pas du tout présente. Il y a peut-être un élément qui rappelle la sorcière au sens folklorique, c'est-à-dire que la magie est quand même basée sur les quatre éléments, qui est quand même un grand classique en fantaisie, en imaginaire. Et bon, ce n'était pas forcément volontaire au départ, mais c'était plus parce que j'ai commencé à me renseigner sur les signes astrologiques. Je voulais vraiment baser la magie là-dessus. Et effectivement, les 12 signes astrologiques sont divisés en quatre éléments. Et du coup, je me suis dit que j'allais reprendre cette idée-là pour avoir vraiment une magie qui émane du monde et qui entre en contact avec le porteur. Et effectivement, il y a la figure du familier qui est un peu réutilisée, c'est-à-dire que chaque personne qui a un pouvoir plus fort que la moyenne et qui rejoint le palais donne naissance à une créature qui prend très vite des proportions phénoménales, qui s'appelle l'ange, et la personne du coup s'appelle le gardien, et qui accompagne le gardien dans ses différentes missions. Donc là, il y a voilà, je ne sais pas si vous voyez sur la couverture, mais il y a un personnage qui est assez central dans l'histoire, qui est né sous le signe du lion, et donc avec l'ange qui se profile derrière.
C'est indiscret de te demander ton signe.
Moi, je suis poisson.
Je navigue dans les eaux de la fantaisie.
Voilà, c'est ça.
Et on a pas mal de serpents dans ce...
Oui.
Voilà.
Oui, oui, parce qu'en fait, chaque animal, chaque ange qui accompagne un gardien a une forme animale bien précise en fonction de l'élément. Et en fait, en réfléchissant là-dessus, j'essaie de voir quel animal pouvait le plus exprimer un élément particulier. Et par exemple, il y a beaucoup de serpents parce que pour moi, l'eau et le serpent, ce sont deux choses qui entrent bien en résonance. Parce que les signes d'eau sont connus pour être des signes très... Qui louvoient, qui sont très versés dans l'imaginaire.
Fluide.
Voilà, très fluide. Et du coup, c'est venu comme ça. Du coup, pour les signes d'air, bah, c'est des créatures ailées. Les signes d'air ne sont pas très représentés dans ce roman. Mais après, ils viennent plus en force. Le signe de terre, c'est le cheval. Mais pas le cheval d'estrie, mais vraiment le cheval de labour. Histoire de nuancer un peu sur cette figure-là. Et les signes de feu, bah, c'est des grands fauves. Voilà.
Alex, alors vos sorcières associées n'ont plus rien à voir avec les sorcières du passé, ou est-ce qu'elles vous inspirent encore, ou c'est vraiment une lignée plus Harry Potterienne comment vous définiriez vos personnages de sorcières ?
Alors, c'est certainement pas Harry Potter. Bon, comme je le disais, je suis une grande lectrice de folklore. Et enfant, j'avais lu beaucoup de contes russes. Et dans les contes russes, il y a un personnage de sorcière particulier qui s'appelle la Baba Yaga, qui est une sorcière qui habite dans une forêt, dans une maison sur des pattes de poule. Et les héros traversent sa maison à un moment ou à un autre de leur quête. Et suivant son humeur, on va dire, elle peut choisir soit d'essayer de les manger, soit de les aider. Ensuite, elle a un familier, elle a un chat qui, si vous êtes gentil avec le chat, il vous dira comment ne pas vous faire manger. Et donc, j'ai toujours gardé cette image de la sorcière dans mon esprit quand j'imaginais mes sorcières à moi, en particulier le fait qu'elles pouvaient être aussi bien terriblement dangereuses que très gentilles, que très cyniques. C'est aussi une particularité de la Baba Yaga, c'est une vieille femme qui a tout vu, tout entendu, qui devine vos pensées et vos buts avant que vous ayez ouvert la bouche. Et donc, mes sorcières à moi, elles sont généralement plus âgées que Harry Potter ou que d'autres personnages du même style. Leur âge commence en général à 35 ans. Typiquement, c'est des femmes qui ont beaucoup vécu, qui ont une grosse expérience de la vie et donc qui sont capables du meilleur comme du pire. Donc si, il y a un côté sorcière, mais ce n'est pas le folklore chrétien, je dirais. C'est le folklore pré-chrétien en Europe, ou c'est le folklore des autres pays du monde, où en général les sorciers, c'est pas des jeunes, c'est des vieux qui ont beaucoup d'expérience. Et l'apprentissage pour être sorcier traditionnel, ça, c'est très souvent une dizaine d'années, comme quand vous voulez faire une thèse de science. Donc ça ne donne pas tout à fait le même comportement. C'est pas des gens qui cherchent, qui cherchent à grandir, qui cherchent leur voie. C'est des gens qui sont déjà établis, qui cherchent plutôt à gérer des problèmes nouveaux qui leur arrivent. Bon, comme l'arrivée de la magie ou comme les problèmes que la magie peut causer dans la société, par exemple.
Je trouve amusant que vous parliez de Baba Yaga. Enfin, il y avait une émission jeunesse qui racontait des contes de partout dans le monde. Baba Yaga était la terreur de mon enfant. J'avais peur. Je rêvais que la maison à pattes de poule venait me capturer. J'en ai eu des terreurs épouvantables jusqu'à un âge trop avancé pour que j'ose le dire devant une foule. Mais reste que la Baba Yaga a été, moi aussi, la base de la construction de la sorcière cynique. Aussi, peut-être un point supplémentaire sur la Baba Yaga, le nombre de filles qu'elle avait. La Baba Yaga a de nombreuses filles dans plusieurs variantes des contes. Le concept d'hérédité aussi, de sorcellerie, puis le concept de cannibalisme aussi, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué puis qui trouve des échos aussi dans mon travail.
La Baba Yaga, on pense que à une époque pré-chrétienne, c'était plus ou moins la déesse de la mort ou l'esprit des ancêtres qui accueillait les morts dans l'autre monde. Donc, d'où le côté terrible et terrifiant. Donc, effectivement, il y a tout à fait ce côté cannibale, etc. Et dans les contes russes, effectivement, beaucoup de belles princesses sont des filles ou des petites filles de la Baba Yaga et elles ont des notions de sorcellerie aussi, pas autant qu'elles, mais quand même elles ont des bases. Et mon père avait l'habitude de dire vous épousez une princesse et au bout de quelques années elle devient une Baba Yaga, et moi je trouvais ça super cool, je voulais devenir une Baba Yaga.
Donc on retrouve l'ogresse en arrière-plan derrière nos sorcières. Alors une dernière question rapidement, puisqu'on a vu que finalement le manichéisme, la distinction bien mal, n'était pas forcément opérante ou pas au niveau le plus évident dans vos romans. Il y a tout de même un aspect moral dans la fantasy. Alors là encore plus ou moins, est-ce que vous revendiquez l'attachement à des valeurs ou est-ce que vous avez des messages à transmettre à vos lecteurs et lectrices, surtout quand il s'agit de jeunes lecteurs et lectrices, hein, comme c'est le cas pour Marie ou pour Roberto, mais voilà, est-ce qu'il y a quand même quelque chose comme une construction morale derrière vos romans de fantasy?
J'espère que je ne donne pas l'impression de monopoliser. Interrompez-moi s'il le faut, je vous en prie. Je crois pas avoir de message à transmettre. De toute façon, avoir un message à transmettre implicitement, c'est dire qu'on en a plus, qu'on en connaît plus que d'autres, ce à quoi je m'associe pas. Néanmoins, j'espérais qu'en produisant ma trilogie, il y aurait une secousse qui se donnerait à mes concitoyens, à savoir, il s'écrit beaucoup, il y a eu une mode, une flambée de fantasy au Québec au cours des dernières années, puis il n'y a jamais eu de fantasy québécoise qui s'est écrite. Pourtant, on a un imaginaire extrêmement riche, on a un folklore de créatures imaginaires qui n'est pas connu ni en Europe ni aux États-Unis. On a un arrière-monde, si vous me permettez l'expression, plutôt que background, qui, je pense, attendait d'être récupéré. Peut-être, s'il y a un message, il est davantage politique et social à mes concitoyens, à savoir de récupérer notre imaginaire à nous, puis de l'utiliser, de le faire fructifier.
Merci. S'il y a un message dans mon roman, je dirais qu'il est écolo. je défends. Voilà. Je pense que le message qui passe, c'est que je crois que la Terre peut engendrer les éléments de sa propre survie à condition qu'on ne dévaste pas tout. Donc, voilà, c'est préservons nos relations avec la forêt. Il y a d'ailleurs un bouquin qui est sorti qui s'appelle La forêt de Peter Volanden, le best-seller de Peter Volanden, La vie secrète des arbres. Et dans La vie secrète des arbres, on peut se rendre compte que c'est un écosystème qui communique. Et comme dans mon bouquin aussi, la nature communique. Donc, soyons proches de la nature, voilà. C'est pas de la sorcellerie, c'est pas de la magie, mais c'est une magie humaine, c'est une magie propre à l'homme qui devrait être préservée, voilà.
Il y a trois micros là.
Bon, je crois pas que j'ai spécifiquement cherché à envoyer un message dans mes romans. C'était plus pour m'amuser et puis pour amuser les lecteurs.
Ça marche bien.
Je crois qu'il y a peut-être deux thèmes qui pourraient s'en dégager. L'un, c'est que, bon, surtout quand j'ai commencé à écrire ces romans, j'en avais un petit peu marre de la fantasy qu'on avait un peu partout, avec un Moyen-Âge à toutes les sauces, un côté très binaire, les bons, les méchants, etc. Et j'avais envie d'écrire totalement autre chose. Premier thème, vous n'avez pas besoin de vous focaliser sur le Moyen-Âge européen. C'était, à mon sens, ce n'est pas la période de l'histoire la plus intéressante qui soit. Deuxième thème, je pense, c'est que le monde est plus compliqué qu'il en a l'air. Parce que, ce que je raconte dans mes histoires, c'est des enquêtes policières. Hein. Et donc, au début, vous avez l'impression qu'il se passe ça, que le coupable, c'est celui-là. Et en fait, à la fin, on se rend compte que c'est pas du tout comme ça que ça se passe et que c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, je pense que le message que, si je vais en faire passer un, ce serait peut-être celui-là. Ce serait peut-être de regarder chaque problème sous tous les angles avant de foncer à la conclusion et se dire il faut faire ça et ça résoudra absolument tous les problèmes, la faim dans le monde, la guerre, tout ce que vous voulez. En pratique, en général, ça ne les résout pas parce qu'on n'a pas tout regardé.
Moi, je suis d'accord avec beaucoup de choses qu'a dit Alex. Moi, c'est un peu pareil. J'ai écrit cette histoire-là avec une volonté de changer par rapport à ce que j'avais beaucoup lu et ce que j'écrivais aussi, la fantasy médiévale avec des camps bien définis. Et moi, je trouvais beaucoup plus intéressant, en fait, d'explorer les nuances. Et je crois que l'idée m'est venue à partir d'une simple phrase qui dit que, en fait, même le méchant n'a pas le sentiment d'être méchant parce qu'il y a toujours d'excellentes raisons. Et souvent, c'est très raisonné. Donc moi, je me suis basée là-dessus. Et pareil, moi, je n'écris pas des histoires pour donner une morale parce que, en tant que lectrice, déjà, j'aime pas ça. J'estime que je n'ai pas de leçons à donner. Donc souvent, moi, j'écris pour réfléchir, en fait. Pour faire réfléchir le lecteur, mais aussi pour réfléchir moi-même. Donc voilà, je pars de ce thème-là de qu'est-ce qu'un bon camp, qu'est-ce qu'un mauvais camp. Et au fil de l'histoire, voilà, je développe, je vois les nuances. Et finalement, c'est au lecteur de se faire son idée. Et voilà.
C'est une démarche tout à fait morale et pédagogique. Donc écologie et puis diversité des points de vue, diversité des imaginaires. On remercie nos auteurs et autrices pour cette belle table ronde et merci au public. Leurs romans sont bien entendu à votre disposition dans la bulle des libraires et les auteurs pour les signatures. Merci.